Laudetur Jesus Christus.
Les reconnaissances diplomatiques affluent au Liban, désormais doté d'un gouvernement. Le président français et le secrétaire général de l'ONU s'y trouvent aujourd'hui. Premier résultat concret de la nouvelle équipe au pouvoir, la reprise de l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth. Témoignage dans ce journal d'un proche d'otage franco-israélien rescapé du Hamas. Leurs traumas et séquelles psychologiques sont partis pour durer. L'activité commerciale reprend lentement entre l'Espagne et le Maroc. Le point de passage entre le royaume chérifien et les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla a rouvert hier. Et puis c'est une flânerie artistique et spirituelle jubilaire que nous vous proposons dans notre dossier ce vendredi à la redécouverte des 5 églises françaises de Rome, magnifiées pour l'année sainte. Rendez-vous avec l'historien des pierres sacrées Mathieu Lours.
Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
Bonjour, le président français arrivé au pays du Cèdre pour soutenir ses nouveaux dirigeants. La visite express de 12 heures coïncide avec celle du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La France impliquée dans la surveillance du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah a deux concerts avec l'Arabie Saoudite hier appelé et soutenu à présent la formation d'un gouvernement libanais fort et rassembleur. Son chef élu lundi, l'ancien juge à La Haye, Nawaf Salam, a déjà remporté un premier fait d'armes. La reprise de l'enquête interrompue depuis 2 ans sur l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Le magistrat Tarek Bitar a engagé des poursuites contre 10 nouvelles personnes. À Beyrouth, Paul Khalife.
Parmi les 10 personnes qui devront être entendues à partir du 7 février par Tarek Bitar figurent des officiers supérieurs de l'armée et des services de sécurité, dont l'ancien chef des renseignements militaires, des hauts fonctionnaires des douanes et des employés du port. La reprise de l'enquête sur l'explosion du port après 2 ans d'interruption est le résultat concret de la désignation de Nawaf Salam au poste de Premier ministre. L'ex-président de la Cour de justice internationale a explicitement insisté dans sa première déclaration publique mardi sur la nécessité de faire la vérité sur la gigantesque explosion et de rendre justice aux victimes et à leurs familles. Après avoir engagé des poursuites contre des ministres anciens ou en exercice, des officiers et des hauts fonctionnaires, le juge Tarek Bitar avait dû interrompre ses investigations après les pressions et les interventions politiques dans le cours de la justice. Les personnalités influentes mises en accusation avaient inondé la justice de recours et avaient bénéficié de la bienveillance du procureur général qui a lui-même limité la marge de manœuvre de Tarek Bitar. Les forces chiites avaient accusé le juge de parti pris après avoir engagé des poursuites contre des ministres proches du président du Parlement Nabih Berri et des alliés du Hezbollah. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
En Israël, le bureau de Benjamin Netanyahou confirme ce matin un accord sur la libération des otages dans le cadre du cessez-le-feu annoncé avant-hier et devant prendre effet dimanche, à la condition d'être voté par le gouvernement de l'État hébreu. Une réunion de son cabinet de sécurité est prévue dans la journée. Les familles des 33 otages concernés par une prochaine libération ont déjà en tout cas été informées. Parmi elles, 2 franco-israéliens, Oadaya Lomi et Ofer Calderon, tous deux âgés de plus de 50 ans. Les enfants des 2 pères de famille avaient été libérés lors de l'accord de trêve en novembre 2023. Les 52 jours de détention ont laissé des traces indélébiles sur les rescapés dont les séquelles sont encore nombreuses. Aujourd'hui, c'est le cas pour Sahar, 17 ans, et Eretz, 13 ans, nous explique leur grand cousin Ange Calderon, membre du collectif du 7 octobre à Paris.
Les séquelles pour Sahar sont de l'ordre, sur le plan psychologique, de la crainte qu'elle a parce qu'elle a vécu dans la crainte d'être violée toutes les heures de sa captivité, car elle savait de quoi il s'agissait et avait malheureusement assisté à des actes de sauvagerie de cet ordre. Elle était seule, retenue en captivité, sans compagnon et sans son frère, ni son père encore moins, bien entendu. Et donc, elle garde les séquelles qu'une jeune fille qui a pu subir ces traumatismes garde. Et en ce qui concerne Erez, c'est bien entendu pareil, et même pire encore, parce que lui, il a des symptômes, on peut dire, phobiques, de phobie. Derrière la moindre porte fermée, il imagine qu'il y a des terroristes. Derrière la moindre porte ouverte, il a peur qu'il s'engouffre. Et donc, c'est terrible de ne pas supporter une porte fermée. Voilà comment ils sont, voilà comment vont revenir les autres.
Des propos recueillis par Alexandra Sirgan. Nous vous en parlions ce mercredi. Le gouvernement cubain remet 553 prisonniers en liberté grâce à la médiation du Saint-Siège. 127 détenus ont déjà quitté leur prison en deux jours, selon un premier décompte officiel des autorités communistes. Parmi eux, le dissident historique José Daniel Ferrer, déclaré prisonnier d'opinion par Amnesty International en 2021, année de son emprisonnement. Le Premier ministre britannique attendu aujourd'hui à Varsovie. Il était hier en Ukraine pour la première fois de ses fonctions prises en juillet. Un accord de partenariat sécuritaire qualifié d'historique par le président Zelensky a été signé à Kiev. Il porte en effet sur un siècle à venir de coopération. À Londres, Jean Jaffré.
Cet accord porte notamment sur le renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité maritime. Figurent aussi des partenariats scientifiques et technologiques dans les domaines de la santé et de l'agrotechnologie, ainsi que sur l'espace et les drones. Une sirène d'alerte aérienne suivie d'explosions dans le quartier des ministères a retenti peu avant que le président Zelensky ne souligne l'impératif d'accroître la coopération pour renforcer le bouclier anti-aérien et déjouer les cyberattaques. Par ailleurs, les deux dirigeants ont discuté de la possibilité de stationner des troupes occidentales en Ukraine afin de superviser un éventuel cessez-le-feu. En début de semaine, le président ukrainien et le président français Emmanuel Macron ont évoqué cette possibilité lors d'une conversation téléphonique. Mais pour Volodymyr Zelensky, il est trop tôt pour en discuter. Il n'est pas question d'envisager des garanties de sécurité à l'Ukraine sans les États-Unis, a souligné Zelensky. Donald Trump, qui sera investi lundi pour un second mandat présidentiel, ne fait pas mystère de son scepticisme sur les centaines de milliards d'aides américaines pour soutenir l'Ukraine. Londres, Jean Jaffré, Radio Vatican.
Une première en 5 ans, l'île de Taïwan a procédé à l'exécution de la peine capitale hier. Un énorme recul pour les droits humains selon diverses ONG. C'est une femme de 32 ans reconnue coupable d'avoir étranglé à mort son ex-petite amie et sa mère qui en a été la proie. Accalmie commerciale en Méditerranée entre l'Espagne et le Maroc, les échanges reprennent doucement dans les enclaves de Ceuta et Melilla. Fermée pendant 6 ans, la douane a donc rouvert entre Melilla et le Maroc, au ralenti pour le moment. À Barcelone, la correspondance de Luis Marsens.
Un camion de marchandises a pu traverser la frontière avec le Maroc pour la première fois depuis 6 ans dans l'enclave espagnole de Melilla, mais toujours pas à Ceuta. La réouverture de la douane est une bonne nouvelle qui permettra à terme d'importer ou d'exporter des marchandises depuis ou vers le Maroc à Melilla, a annoncé hier le gouvernement espagnol. Le passage de ce premier camion ouvre une nouvelle étape pour la reprise des relations commerciales entre les deux pays, ajoute Madrid. Le Maroc avait fermé cette douane commerciale avec Melilla en 2018 dans un contexte de tensions diplomatiques permanentes à propos du Sahara occidental. Dans l'autre enclave espagnole de Ceuta, un camion a tenté hier de franchir la frontière avant de rebrousser chemin. Fermé pendant le Covid, les deux seules frontières terrestres entre l'Europe et l'Afrique avaient finalement rouvert en mai 2022 après la reconnaissance implicite par Madrid de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Mais les douanes commerciales étaient restées fermées. Alors cette réouverture reste cependant très limitée et il faudra attendre encore longtemps pour retrouver l'activité commerciale d'avant 2018. Barcelone, Luis Marsens pour Radio Vatican.
À Paris, la France et l'Angola appellent à la reprise du dialogue au plus haut niveau entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, en conflit dans l'est de la RDC. Emmanuel Macron recevait hier son homologue angolais João Lourenço, dont le pays est médiateur dans cette guerre à l'est de la RDC. La France, où se trouvait hier le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Parolin, était au ministère français des Affaires étrangères, où il a pu s'entretenir avec Jean-Noël Barrot notamment. Il s'est aussi exprimé lors d'un colloque sur le centenaire de l'accord Poincaré-Séréti qui marque l'établissement du statut juridique de l'Église catholique en France. Dans son discours, le secrétaire d'État du Saint-Siège a réitéré l'invitation aux autorités françaises déjà formulée par le pape en Corse sur une définition de la laïcité comme saine et positive. Le cardinal Parolin l'a souhaité hier, évolutive et dynamique. Le pape, lui, souffre toujours de son côté d'une contusion à l'avant-bras droit après une chute ce jeudi à la Maison Sainte-Marthe. Aucune fracture détectée, mais son bras était immobilisé par mesure de précaution, a précisé hier un bulletin de la salle de presse du Saint-Siège. C'est un patrimoine religieux français d'exception que les pèlerins peuvent redécouvrir à Rome à l'occasion de l'année sainte 2025. Restaurée et sublimée pour le jubilé, les cinq églises françaises de la ville aux sept collines témoignent d'une histoire partagée entre la fille aînée de l'église, la papauté et la patrie de l'art qu'est l'Italie. Ce dimanche, une messe à Saint-Louis des Français marquera la fin de la rénovation de l'église nationale qui abrite l'une des œuvres préférées du pape qu'est la vocation de Saint-Matthieu par le légendaire Caravage. Ces trésors artistiques et spirituels français dans la ville éternelle déploient toute leur vocation dans l'assistance aux pèlerins, mais représentent aussi un outil d'influence culturelle et diplomatique français notable que nous évoquons ce matin avec le spécialiste des cathédrales que chacun a pu connaître lors de la réouverture de Notre-Dame, l'historien de l'architecture religieuse Mathieu Lours, nous rappelle d'abord le style tout particulier de ces églises.
Le style de ces églises est vraiment intéressant parce que d'abord il est pleinement romain. Elles ont toutes été conçues pour être romaines et s'inscrire dans le grand théâtre du sacré, de l'architecture sacrée qu'est la ville de Rome. Mais on a quand même des spécificités. Si vous allez à la Trinité des Monts et que vous avancez un petit peu dans l'église, vous allez voir au-dessus du maître-autel des voûtes d'ogives du XVe siècle extrêmement françaises. Et l'art gothique, c'était l'opus francigenum au Moyen-Âge, c'est-à-dire l'art né en France. De l'amener comme ça au cœur de la Rome des papes, il y a vraiment un geste militant. Mais ensuite, on va passer pour la suite du chantier plutôt à une architecture complètement italienne. Et c'est plutôt ce qui honorait davantage la France, c'était de faire travailler les plus grands noms de l'Italie. Faire travailler Caravage, faire travailler tous ces grands artistes. Mais on a quand même eu des apports français notables, par exemple avec Pierre de Lestache, qui réalise la statuaire de Saint-Louis des Français au XVIIIe siècle. Il y a vraiment des allers-retours et souvent les artistes français d'ailleurs restent à Rome, puisque Pierre de Lestache a vu son fils, Charles, devenir administrateur des pieux établissements pendant la Révolution française, par exemple.
Quelle est la particularité de la valorisation de ce patrimoine religieux sous double tutelle française et vaticane dans un contexte italien et comment celui-ci peut devenir un outil d'influence française ?
Italie, Saint-Siège, France doivent dialoguer sur le devenir de ces églises. Alors leur rôle diplomatique, c'est avant tout un rôle d'accueil. C'est-à-dire que les Français qui sont à Rome savent que spirituellement, et pas seulement temporellement, ils peuvent être chez eux quelque part. Ils peuvent être accueillis spirituellement par la France à Rome. C'est évidemment un héritage des liens historiques du catholicisme avec la France. Il y a aussi le fait que, artistiquement parlant, la France contribue à la beauté de Rome, à l'embellissement de la ville de Rome. Et en ce sens, elle tient, j'irais, un pouvoir d'influence important, parce que Rome, c'est la ville qui reçoit tous les pèlerins et qui reçoit aujourd'hui plein de touristes. Donc voir la France à Rome, c'est montrer l'excellence française à l'étranger, tant en termes de création qu'en termes de restauration, mais aussi pour les catholiques, montrer la capacité de l'Église de France à exister dans la capitale de la chrétienté.
Une ville comme Rome recèle de trésors artistiques plus ou moins bien entretenus. La ville éternelle et l'Italie ont-elles des enseignements à prodiguer à la ville lumière et à la France en termes de préservation des biens culturels et patrimoniaux ?
Il y a plusieurs points sur lesquels la France pourrait se mettre à l'école de Rome. D'abord, l'ouverture et l'accueil des églises. C'est-à-dire que les églises de Rome sont vivantes, on y accueille, le clergé y est présent. Donc cette idée là peut être un modèle aussi pour la ville de Paris pendant le jubilé. Paris va accueillir beaucoup de visiteurs cette année. Beaucoup vont aller à Notre-Dame. Beaucoup ne vont pas pouvoir rentrer peut-être à Notre-Dame autant qu'ils le voudraient, aussi librement qu'ils le voudraient. Et ça peut être une formidable occasion pour les églises du centre-ville. Si on doit attendre 3 jours avant d'avoir une place à Notre-Dame, peut-être que le site pourrait aiguiller vers d'autres églises et que ces autres églises pourraient avoir à apprendre sur la manière dont on peut accueillir effectivement dans ces lieux-là. Mais on a aussi, je crois, l'excellence de la restauration à l'italienne, c'est-à-dire la capacité à restaurer des œuvres d'art, des tableaux. Il y a un niveau de science du patrimoine en Italie qui est très intéressant. Les scientifiques italiens ont participé à la restauration de Notre-Dame de Paris, par exemple. Et à l'inverse, on est très très fort en France sur la restauration d'édifices médiévaux et restauration d'architecture. Donc il y a vraiment à Rome un lieu de dialogue entre les restaurateurs italiens et les restaurateurs français. Et chacun peut apporter ses savoir-faire. Et comme le contrôle est un contrôle qui est opéré par l'Italie, c'est l'équivalent de la DRAC, la Sovrintendenza italienne, qui contrôle le fait que les travaux étaient menés à bien sur les édifices français à Rome. Et donc, on a là un lieu qu'on n'a pas souvent en matière de politique internationale, parce qu'on peut avoir des biens en pleine propriété, comme des ambassades, par exemple. Mais des lieux de culte, c'est quand même assez unique en son genre.
L'historien d'architecture Mathieu Lours, directeur scientifique du beau livre « Les pieux établissements, la France à Rome » de la collection « La grâce d'une cathédrale chez Place des Victoires, la nuée bleue » était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Mille merci pour votre écoute attentive et fidèle. Prochaine édition en direct à 13h, heure de Rome. Très belle journée.